Bonsoir mes frères et sœurs. Nous allons donc lire dans les Corinthiens. Nous allons reprendre à partir de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Je vous encourage bien sûr à lire en entier cette épître et même la deuxième, parce que vous verrez que s'il y a une deuxième lettre qui a été écrite aux Corinthiens, c'est pour revoir certaines choses qui ont été également traitées dans la première épître, pour voir comment on a réglé les problèmes. Parce que Dieu voit comment on règle les problèmes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Nous allons voir ce soir pourquoi les chrétiens de Corinthe sont redevenus charnels. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme, quand l'un dit « moi, je suis de Paul », et un autre « moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Et je termine volontairement par cet avertissement qui peut faire froid dans le dos. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y a des avertissements qui font... Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est bien de terminer la lecture par un avertissement? Eh oui. Il faut lire tout, les prophéties, les promesses, les encouragements, les enseignements, mais il ne faut pas oublier que dans la Bible, il y a des avertissements. C'est rare quand on en voit sur des posters, ça c'est clair. Mais quand même, ils y sont. Alors, vous avez vu le début, vous avez vu cet épître où il nous est rappelé que ces Corinthiens, ils ont tout reçu. Tous les dons. C'est bien, non? Franchement. Vous aimeriez que dans l'Assemblée de Sainte-Anne, il y ait tous les dons? Ah mais répondez. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une grâce. Ils avaient tout reçu. Alors on peut se poser la question, par rapport à la simple lecture qu'on vient de faire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une église où le Saint-Esprit a manifesté sa vie, a manifesté les dons, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils sont cessés de grandir? Pourquoi ils sont devenus ou redevenus des enfants? Vous vous rappelez ce que Paul dit aux Galates? Mais vous couriez bien. Vous couriez bien. C'est beau quand Dieu voit des chrétiens qui les comparent à des athlètes qui courent. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ils avaient cessé de grandir. Vous savez que nous le voulions ou non, tous les jours, je dis tous les jours parce que c'est tous les jours, nous faisons des choix, ou de grandir, ou de rétrécir, ou de diminuer, oui ou non? Mais oui, nous ne nous en rendons pas compte. Ils avaient cessé de grandir, ils étaient devenus charnels, comment? Eh bien on l'a lu, en se disputant, en se divisant, en se comparant. Comment on devient charnel? Comment on redevient charnel? Est-ce qu'un chrétien peut redevenir charnel?
Eh bien oui. Pas parce que quelqu'un est spirituel aujourd'hui qu'il va l'être dans 3 semaines. On peut redevenir charnel en succombant à des choses parce qu'on ne veille pas. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il n'avait plus la pensée de Christ. Quand on est charnel, on n'a plus la pensée de Christ. Ce qui caractérise vraiment un chrétien qui est charnel, c'est qu'il redevient comme les gens du monde. Et c'est quand même révélateur dans les propos, dans les comportements. Le monde se querelle. Est-ce que les gens du monde se querellent? Eh bien, les chrétiens, charnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils se querellent. Est-ce que les gens du monde sont divisés? Vous avez vu en politique comment ils sont unis. Vous avez vu. Les chrétiens charnels, ils se divisent. Tout le temps en train de se chipoter pour un truc. Ouais, ils vont parler des opinions. Il y a des chrétiens. On reconnaît un arbre à ses fruits. Un chrétien charnel, dit l'apôtre, il réagit comme un enfant. Il est incapable de recevoir un enseignement profond. Il y a des chrétiens, vous pouvez leur dire des choses importantes, ils sont incapables de les recevoir, comme un enfant. Un enfant, bon, un enfant à la maternelle, est-ce qu'on peut apprendre à un enfant que 1 plus 1, ça fait 2? Oui. Est-ce que vous pouvez apprendre à un enfant la géométrie dans l'espace? Peut-être pas tout à fait. Déjà que nous, les adultes, c'est pas évident, croyez-moi. Mais un enfant, un chrétien charnel, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'églises piétinent, parce que les gens sont charnels. Et ils devraient quand même dire, tiens, mais c'est vrai, je suis tout le temps en train de m'accrocher avec un frère. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps en train de se disputer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez jamais évité des chrétiens pour éviter des disputes? Est-ce que c'est écrit, évite les... Est-ce que c'est écrit, évite les disputes, les discussions oiseuses qui font naître des querelles? C'est la preuve qu'il y a des chrétiens qui sont charnels. Et ça, c'est des révélateurs. Parce que quand même, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Si vous êtes tout le temps en train de vous quereller, je peux vous dire que vous êtes charnel. Ça, c'est sûr. N'allez pas chercher ailleurs. Moi, je vous le dis. Vous avez vu en Corinthiens chapitre 3, verset 2, il dit quand même, je vous ai donné du lait. Paul, à ces chrétiens qui avaient tout reçu, qui auraient dû recevoir un enseignement extraordinaire, l'épître aux Corinthiens, ça aurait pu être quelque chose de puissant, comme l'épître aux Hébreux. Vous avez vu, l'épître aux Hébreux, c'est du costaud. Mais l'épître aux Corinthiens, c'est, quelque part, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu parle à des chrétiens charnels. En même temps, c'est Dieu, dans sa souveraineté, nous bénit au travers d'une épître aussi simple. Ils ne peuvent pas la supporter. Vous avez vu? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, charnel? Parce que là aussi, je pense que ça nécessite quelques explications. Alors, souvent on dit que quelqu'un de charnel, c'est par rapport à ses habits, par rapport aux coiffures. Oh, cette sœur, elle est charnelle. Elle s'est fait teindre les cheveux un peu. C'est un peu trop rose, ce truc. C'est charnel. Les habits, les bijoux. On dit que ce sont des choses... Le sport. Celui-là, il fait trop de sport. Il est charnel. Alors, est-ce que ce sont des choses charnelles, ça? C'est une question. Une bonne question. Elles peuvent être une marque que les gens sont charnels, mais elles ne le sont pas en soi. Être charnel, écoutez bien, ça commence là-dedans. Être charnel, ça commence dans la pensée. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens, ils ont commencé à se disputer, à se quereller, à vraiment faire des comparaisons. Ça commence dans la pensée. Quand un chrétien est soumis à Christ, parce qu'on a chanté « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien », bon, c'est du costaud, ça. Hein? Quand le Saint-Esprit, par sa parole, enseigne le chrétien, à quoi on reconnaît déjà un chrétien spirituel? Il veut connaître la pensée du Seigneur. Est-ce que c'est important pour vous? Voilà, c'est sûr. Si ça ne vous intéresse pas la pensée, si vous ne lisez pas la Bible... Parce que ça, il faut être logique. Si vous ne lisez pas la Bible, pour maintes raisons, c'est qu'en vérité, vous n'êtes pas soucieux de connaître la pensée de Christ. Quand un chrétien se laisse aller à ses propres pensées, qu'il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît, il n'a plus la pensée de Christ. C'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Vous n'avez plus la pensée de Christ. Parce que vous n'avez pas compris quelle était la volonté du Seigneur. Ils n'écoutaient pas l'Esprit. On peut chanter « Ta volonté, te connaître, Seigneur », c'est des chants, ils sont tous beaux. Mais est-ce que vraiment, ce soir, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je veux connaître la pensée du Seigneur ». Ma volonté, c'est bien, mais ça m'est égal. Moi, je veux connaître la pensée du Seigneur. Beaucoup de chrétiens croient obéir à Dieu parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils prient, parce qu'ils vont à l'église, mais en vérité, ils font leur propre volonté. On le voit par... Je vais donner 2 ou 3 exemples. Dans les épreuves, est-ce que vous avez déjà eu des épreuves? Qui n'a jamais eu d'épreuves? Signalez-le, venez me voir, ça ne devrait pas tarder. De toute façon, si vous n'en avez jamais eu, je ne veux pas vous faire peur, mais ça ne devrait pas tarder. Je prends un exemple flagrant, très flagrant. Il y a des gens, quand ils subissent une injustice, moi je ne supporte pas l'injustice. Moi je ne supporte pas l'injustice. Moi j'aime la justice, j'ai faim et soif de justice. Oui, en plus on prend des versets qui nous vont bien. Hein? Moi, je suis comme Jésus. En plus, il y a des gens qui vont loin. Hein? Moi, je ne supporte pas. Donc, je dis ce que j'ai à dire quand je subis une injustice. Et ça va chauffer, je vous le dis. Il y a des chrétiens comme ça. J'exagère un peu, mais... Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a subi des injustices? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. C'est écrit ça où? Ésaïe 53, lisons-le. Je voudrais que vous compreniez comment un chrétien devient spirituel et comment un chrétien redevient charnel. Parce que vous voyez ces histoires, moi je ne supporte pas l'injustice, moi j'aime la vérité. Mais la vérité, c'est aussi, ça n'a rien à voir en plus. Ça n'a rien à voir. Jésus, lorsqu'il était battu, frappé, lorsqu'on lui crachait dessus, lorsqu'on lui arrachait les poils de la barbe, c'est écrit. Ésaïe 53, verset 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, etc. On va lire le verset qui nous intéresse, parce que bon, il y a pas mal de choses à voir. Verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Voilà. Il y a des gens, dès qu'ils subissent une injustice, « Ah ça, je ne supporte pas, moi je suis un vrai chrétien. » Ah ouais, t'es un vrai chrétien? Et t'es pas capable de supporter une injustice? C'est ça, là. Il faut comprendre ce que c'est être charnel. On l'a lu l'autre jour dans 1 Pierre. Lisez ces textes, méditez-les. Moi je sais, enfin tous, quand on a travaillé dans le monde, on a subi des injustices, moi j'en ai subi plusieurs. Eh bien moi j'ai compris qu'il fallait rien dire. Et c'est pas de la faiblesse, croyez-moi. Parce qu'il faut du courage parfois pour rien dire. 1 Pierre, chapitre 2, il faut que nous comprenions, mes frères et sœurs, il ne faut pas que le côté charnel, ce soit, oh cette fille elle est charnelle, elle a des jupes courtes, elle est charnelle, bien sûr, c'est sûr que c'est pas bon, mais c'est pas ça être charnel, c'est ne pas connaître la pensée de Dieu, de Christ, de Dieu, c'est pareil. 1 Pierre 2, verset 20, quelle gloire y a-t-il en effet à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, alors qu'est-ce qu'il faisait? Ne rendait pas d'injures, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors ça ne veut pas dire... qu'il ne faut pas parfois répondre, bien sûr qu'il faut savoir répondre. Mais il y a des fois, il faut savoir se taire. C'est ça la pensée du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens sont incapables. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de se disputer. Et le résultat, c'est que le témoignage est lamentable. Croyez-moi, Jésus s'en remettait à celui qui juge. Vous voulez que Dieu s'occupe de vos problèmes? Eh bien, remettez-vous-en à lui. C'est même pas... Bon, des fois, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un. Est-ce que des fois, on a besoin d'en parler? Bon... C'est bien, des fois prier pour moi, j'ai traversé cette épreuve, je suis angoissé à cause de cette épreuve. Priez pour moi, bon, on peut le faire, ça, c'est biblique, prier les uns pour les autres. Mais quand vous subissez une injustice, remettez-vous-en à Dieu. Vous entendez? C'est ça la pensée de Christ, parce que c'est pas un mystère la pensée de Christ. Quelqu'un qui lit la Bible, il découvre et il comprend la pensée de Christ, ça peut pas être plus évident. Regardez dans Luc 18, On prend un exemple, mais on pourrait en prendre des centaines, mais tous les exemples bibliques, tous, comment se comporter dans tel et tel problème. Luc 18. Justement, Jésus pose une question terrible. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question, c'est le Seigneur qui la pose. Vous aimez qu'on vous pose des questions? Est-ce que vous aimez qu'on vous pose des questions? Est-ce que vous souhaitez que Dieu vous pose des questions? Parce que ce n'est pas moi qui la pose, c'est Jésus qui la pose. Bon, par contre, il faut répondre. Est-ce que Dieu va trouver la foi dans mon cœur, sur la terre, quand il va revenir? Regardez dans quel contexte c'est dit. Apprenez à toujours chercher le contexte d'une question ou d'une situation. Le contexte, alors Luc 18, la question verset 8, à la fin, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il justice? Trouvera-t-il la foi sur la terre, pardon. C'est une parabole sur l'importance de persévérer dans la prière. Et au verset 7, et Dieu, c'est une promesse, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Les élus, ce n'est pas les charnels, hein, c'est les chrétiens qui obéissent, qui crient à lui jour et nuit. Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Il leur fera promptement justice. Et les gens qui sont, ouais, moi je vais me défendre. Est-ce qu'il faut toujours se défendre? Eh bien non. Il y a un passage que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Bon, c'est sûr que c'est l'apôtre de l'amour qui l'a écrit, enfin qu'on appelle l'apôtre de l'amour. C'est dans 1 Jean, dans 3 Jean. Regardez comment cette délicatesse, tout à l'heure, avant d'introduire la prière, on parlait de la délicatesse du Seigneur. Regardez quand même dans 3 Jean. C'est quand même une drôle, en plus c'est une épître qui est sur la vérité. C'est la marche dans la vérité. Vous savez que chaque livre a un titre. C'est la marche dans la vérité, parce que, on le voit, voyez, ça commence, l'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, verset 2, tu marches dans la vérité, verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Enfin, c'est toute une épître sur la vérité. Regardez au verset 13, regardez bien, j'aurais beaucoup de choses à t'écrire. En plus, en parlant de la vérité, il aurait pu mettre le paquet. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. C'est ça la pensée de Christ. Il y a des choses, il aurait pu me profiter. Je lui envoie un truc sur la vérité et je vais te dire que je vais te dire tout ce que j'ai à te dire. Non, il préfère attendre de le rencontrer et de lui parler en vis-à-vis. Vous voyez, c'est ça la pensée du Seigneur. Tiens donc, je peux le lui dire, je peux le lui écrire. Mais peut-être que c'est mieux que j'attende. Samedi, on a eu une réunion avec les frères et les anciens m'ont dit, Monsieur Gaud, il vaut mieux que vous en parliez en tête à tête. Ça, c'est intelligent. Et regardez même avant, la deuxième épître, c'est la même chose. 2 Jean chapitre 12, c'est le même contexte. Là, on n'est pas dans la vérité. Là, le titre, c'est les commandements, marcher dans les commandements. C'est le même principe, que ce soit la vérité, que ce soit la marche dans les commandements, quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, verset 12. Je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous, et vous parler de vive voix. Voyez, c'est ça la pensée de Christ. Il y a des gens, ouais, moi je vais lui dire la vérité, je vais dire tout ce que je pense. Le résultat, qu'est-ce que c'est le résultat? C'est quoi le résultat? Hein? Le résultat, c'est qu'il y a des divisions et des disputes, et c'est la preuve qu'on est charnel. Un chrétien, il a la pensée de Christ, et il sait exactement quand il faut se taire ou quand il faut parler. La pensée de la chair, c'est écrit dans Romains 8. Regardez avec moi. Il faut que vous preniez des notes. Les frères et sœurs, si vous écoutez juste sans prendre des notes, il va vous manquer la possibilité de méditer. Romains chapitre 8, verset 7. Il faut lire ces textes. Vous savez, tout ce que je vous partage, je l'ai appris dans des études aussi, en écoutant les pasteurs prêcher, en réfléchissant à ce qu'ils disaient, en revenant sur les chapitres qu'ils citaient, comme je le fais ce soir. Romains 8, verset 7. Vous voyez, Romains 8, verset 7. L'affection de la chair, donc d'être charnel, est inimitié contre Dieu. Vous avez vu comment ça lui plaît, hein? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et le Seigneur voit ces chrétiens qui sont en train de redevenir charnels. Ils pensaient qu'ils étaient une église modèle parce qu'ils avaient tout reçu. Ils avaient tous les dons. Ils étaient généreux, on le verra plus tard, par rapport à l'argent. Ils allaient à l'église, et c'est beau. Quelqu'un d'extérieur pouvait dire, comme dans l'église de la Odyssée, « Mais qu'est-ce qu'ils font pas ? Qu'est-ce qu'ils font pas ?» On parlait de ce texte l'autre jour, je ne sais plus avec qui, il y avait les anciens aussi. Quand Dieu dit à une église, « Je connais tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Ah, ça fait du tape à l'œil, ça. Tu te rends compte, ils font davantage d'œuvres qu'avant. C'est pas pour ça que l'église est spirituelle. Une église, un chrétien, il devient spirituel lorsqu'il comprend quelle est la pensée de Dieu. Ils étaient devenus les disciples des hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils se disputaient pour savoir qui c'était le meilleur des pasteurs de l'Église. Moi, je suis Paul. Ah non, 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 Paul, il est trop raide. Non, 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 Paul. Ah, moi, je suis Apollos. Ah, moi, je suis plutôt l'apôtre. Moi, je serais plutôt l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Moi, vous savez, j'ai cette tendresse à moi, etc. Ah, mais il y a ceux, bien sûr, qui étaient super spirituels, qui suivaient que Jésus. L'apôtre les reprend tous. Nous ne sommes pas des disciples d'un homme. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, de la parole. Il y a des chrétiens, ils choisissent en fonction du gars qui leur convient, mais pas la parole. Un véritable chrétien, il choisit d'être un disciple de Jésus-Christ. On ne suit pas un homme ou une dénomination. Ce n'est pas parce que je suis pentecôtiste, voilà, je suis le mouvement des assemblées de Dieu. C'est ça qu'on fait ? Est-ce que vous suivez le mouvement des assemblées de Dieu ? Ou est-ce que vous suivez Dieu ? Voilà, c'est ça, c'est pas une dénomination, ce n'est pas un pasteur que l'on suit, on suit le Seigneur. Et l'apôtre Paul en parle, il y a un fondement qui a été posé, le fondement c'est Jésus-Christ, et personne ne doit poser un autre fondement. Et si vous regardez, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais est-ce que vous avez vu les confessions de foi des autres dénominations ? Avec Internet, il n'y a rien de plus facile. Vous tapez « confession de foi » de l'Église apostolique, vous avez la confession de foi. Confession de foi de l'Église presbytérienne. Et vous voyez, si bien sûr il faut connaître la Bible, mais de suite vous savez si on respecte la parole. Parce qu'en fin de compte, pourquoi on est là ce soir ? Pour devenir spirituel. Oui ou non ? C'est ça que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Avoir une connaissance extraordinaire et dire, moi, je vais t'expliquer dans 6 mois, je te dis que je vais te l'expliquer, l'Épître aux Corinthiens. C'est ça que vous voulez ? Savoir expliquer mot à mot l'Épître aux Corinthiens ? Ou est-ce que vous voulez dire, moi, je ne veux pas redevenir charnel, je ne veux pas être charnel, je veux être un chrétien spirituel, je veux marcher sur le fondement ? Bien sûr que cela sous-entend derrière qu'il y a la diversité des ministères. Est-ce qu'il y a plein de ministères ? Oui, et c'est bien, il y a plein de ministères, mais au travers de la diversité des ministères, Paul montre d'abord la souveraineté de Dieu et que l'on doit suivre le Seigneur. C'est ce que Dieu dit qui est important. Cherchez à comprendre la pensée de Christ. Quand vous lisez la Bible, vous découvrez, et qu'un chrétien intelligent, un chrétien sain d'esprit, il sait la pensée de Christ. C'est ça la pensée de Christ. Comment découvrir la pensée de Dieu ? Et Paul dit, mais nous avons la pensée de Christ. Et je peux vous dire que si vous méditez la parole, et que vous dites, non, mais moi je ne veux pas me disputer, moi je ne veux pas de querelle, c'est le premier problème qui s'est retrouvé chez les Corinthiens, c'est pour ça qu'ils sont redevenus des enfants spirituels. Non, moi je veux travailler pour que ce soit toujours Dieu qui reçoive la gloire. C'est ça que Paul est en train de leur dire. On suit Jésus-Christ. Alors tiens, en parlant de gloire, c'est le Seigneur qui doit recevoir la gloire. Vous êtes d'accord ? C'est pas Paul et Apollos et un autre homme, ou Pierre, ou Céphas. C'est le Seigneur qui doit recevoir la gloire. C'est pas un homme qui doit recevoir la gloire. Mais est-ce que nous aurons la gloire un jour, nous aussi ? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, Madame Chapeau ? Est-ce que c'est écrit que gloire, honneur et paix pour ceux qui marchent avec Dieu, est-ce que c'est écrit ? Oui, nous aussi, un jour, nous recevrons la gloire. Mais sur la terre, s'il y en a un qui doit être exalté, c'est le Seigneur. Dans une église, c'est son nom qui doit être exalté. Ce n'est pas un homme. Si dans une église, Dieu permet, comme ici, qu'il y ait plusieurs pasteurs, eh bien tant mieux. D'accord ? Mais on ne doit pas, bien sûr qu'on peut dire, tiens, celui-là, c'est un évangéliste. Est-ce qu'on peut dire, M. Bordeneuve, c'est un évangéliste, le pasteur en place, c'est vraiment un pasteur? Oui, c'est du discernement, ça. C'est pas de la comparaison. Paul et Apollos, ils ne faisaient qu'un. Et il dit, voilà, on est un, et c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui bénit. Ce qui est important, c'est la bénédiction de Dieu. Vous êtes d'accord? Et quand on est charnel, on se met en porte-à-faux. C'est pour ça qu'on devrait dire, mais quand même, tout ça, ça a été écrit, il faut que je fasse attention. Le fondement a été posé, je me tiens à carreau sur le fondement. Et quand même, franchement, quelqu'un qui est charnel, c'est qu'il veut redevenir charnel. C'est qu'il peut chanter « Entre tes mains, j'abandonne », tout ça, c'est pas vrai, c'est du pipeau. Quand on veut être spirituel, voilà, « Seigneur, parle-moi ». Vous voyez, j'ai parlé de l'exemple de la voiture, c'est très sommaire, mais c'est révélateur. De quelqu'un qui cherche la pensée de Dieu. Après, ça va plus loin. C'est pour ça que ça termine par un avertissement. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, parce que ça va... Quand on est charnel, on ne se rend pas compte que ça va avoir des conséquences. On dit, oh, c'est pas grave, on se dispute, mais c'est pas grave. Oui, mais si on reste dans cet état d'esprit, ne vous imaginez pas que ça va amener la bénédiction de Dieu. Ce qui amène la bénédiction de Dieu, c'est le spirituel. Et c'est ça que l'on veut. Alors, Paul... Sur ce problème qu'on a évoqué l'autre jour et qui se termine bien sûr avec une belle conclusion, il y a quand même un avertissement et le fait qu'il va falloir rendre des comptes à Dieu. Est-ce que c'est écrit ça, qu'il va falloir rendre des comptes? Et il parle que tout croyant sera jugé. Alors jugé, ça ne veut pas dire condamné. Mais juger, ça veut dire qu'il va falloir rendre des comptes. Les œuvres que nous aurons faites, est-ce que ça en représente des œuvres ça quand on est chrétien? Eh oui. Alors Dieu compare... Les œuvres à trois choses que le feu ne peut pas brûler. Vous avez vu pour commencer? Il compare les œuvres d'abord à trois choses que le feu ne peut pas brûler, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et il mentionne ces trois choses, et voilà, il dit, voilà, il y a plusieurs façons de construire. Mais l'œuvre que nous faisons, toutes les œuvres que nous faisons, sont soit de l'or, soit du foin, soit de l'argent, soit du chaume. Soit des pierres précieuses, soit de la paille. Le jour la fera connaître. Vous avez vu ce verset? Vous y êtes avec moi? Il y a un jour, parce qu'il y a toutes sortes de jours. Vous voyez, hier on a fêté les 14 ans de ce qui s'est passé, il n'y a pas loin d'ici, à ZDF. Il y a des jours. Le verset 13 du chapitre 3, le jour la fera connaître. Ce jour, il faut comparaître devant Dieu. Vous y pensez? On lit un verset ou deux? Un dans Romains 14, puisque c'est pas loin, vous allez quelques pages en arrière. Romains 14, verset 10. C'est écrit, c'est sérieux. Moi, je suis sûr, moi je le disais même une fois à des pasteurs. J'ai dit, vous pensez pas à ça? Vous n'y pensez pas. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 12, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Un petit peu plus loin, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il y a d'autres versets, mais on ne peut pas tout prendre parce que le retour nous bip vite. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Vous savez, ce sont des versets que ça vaut la peine de les apprendre, par cœur même. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son cœur. Donc il y aura un jour, c'est quand même un jour spécial pour chacun d'entre nous, non? Vous ne trouvez pas? C'est quand même un drôle de jour, où l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Alors, éprouvée par le feu, c'est sûr que le langage est symbolique. C'est clair que c'est un langage symbolique, mais... Qu'on comprenne le symbolisme ou pas, c'est quand même ce qui arrivera. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un peut dire, ouais, mais c'est une image, ça va passer comment? Alors tout ce qu'on a fait, ça va passer sur un tapis roulant, il y a un feu qui... Non, mais écoutez-moi bien. Moi, que vous compreniez l'image ou pas, ça m'est égal. Mais c'est ce qui se passera. Tout ce que l'on aura fait passera devant Dieu. Tout. Le feu indique qu'il y a un jugement. Je répète, le jugement, ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas le jugement dernier des gens qui vont être irrémédiablement perdus. Le jugement des chrétiens, il faut que l'on comparaisse devant Dieu et qu'on rende compte pour tout ce qu'on aura fait, tout, même si vous en avez oublié les 99%, ce n'est pas grave, tout ce qu'on aura fait, tout. Vous entendez? Tout. Jésus va loin, il va très très loin. On va le lire, Matthieu 10. Ça va loin cette affaire, ça va très 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 loin. Moi ce verset, quand j'ai compris ce qu'il voulait dire, j'ai compris combien Dieu voulait que l'on comprenne ces choses. Matthieu 10, regardez ce qui est écrit. Comment le Seigneur est précis, et c'est encourageant en même temps. Matthieu chapitre 10, verset 42. Voilà, ces versets, je vous les laisse, je ne les explique pas tous, mais si vous prenez le temps chez vous de comprendre ces choses, vous découvrirez encore mieux la pensée de Christ et vous ne deviendrez pas charnel. Matthieu 10, 42. Quiconque, donc quiconque c'est n'importe qui, donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors, c'est une blague ou c'est vrai? Est-ce que le Seigneur y blaguait? Non, c'est la vérité. Un verre d'eau froide, c'est quoi un verre d'eau froide? Un verre d'eau froide. Mais un verre d'eau froide, ça représente la plus petite chose que l'on peut faire. Et tout ce que l'on fait, de tout son cœur, parce que Dieu, il ne regarde pas la façon dont on le fait, il regarde l'intention. Demain matin, mon frère, tiens, tu vas... Ah, ça fait mois que je n'ai pas vu Madame Dupont. Je vais l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Est-ce que c'est enregistré? C'est ça un verre d'eau froide? Bon, vous allez me dire, c'est un peu plus qu'un verre. Bon, c'est une carafe. Dieu le voit. Vous allez me dire, oh, mais tu plaisantes. Il y a des gens, Monsieur Gault, vous rigolez. Écoutez-moi. Quand Jésus dit, quiconque donnera un verre d'eau froide à quelqu'un, ça veut dire que c'est toute petite chose comme les grandes. C'est sûr que quand on a offert la voiture à ce pasteur, c'était plus qu'un verre d'eau. C'était déjà un gros bidon. D'accord? Mais tout est enregistré. Tout est enregistré. Vous entendez, mes frères et sœurs? Et Dieu regarde la façon dont vous faites quelque chose. Pourquoi je fais? Comment je le fais? C'est ça. L'or, l'argent, parce qu'il y a des gens, oui, moi, tout ça, ces images, l'or, l'argent, le foin, le chaume, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je fais quelque chose, je le fais de tout mon cœur, pour le Seigneur. Je ne suis pas en train de comparer, vous voyez, parce que tout ça, c'est relié. La façon dont les Corinthiens redevenaient charnels. Le Seigneur est en train de leur dire, écoutez, ne vous comparez pas, ne vous disputez pas. Quand vous faites quelque chose, faites-le parce que Dieu vous le demande. Ah, pourquoi tu chantes à la chorale? Ben je chante à la chorale parce que Germaine, elle chante à la chorale et moi je chante à la chorale parce que je pense que je chante bien. Alors, je ne sais pas trop quoi faire, je vais chanter à la chorale. Ça, c'est du foin. On ne chante pas à la chorale parce que Gertrude, ma copine, chante à la chorale. On chante à la chorale parce que je veux servir Dieu et je veux glorifier le Seigneur. Et quand on fait les choses pour Dieu, Dieu bénit. Si vous étiez là dimanche après-midi, vous avez vu les 4 ou 5 jeunes là qui ont chanté un chant. Ça a soulevé l'auditoire. Vous étiez là, oui ou non? Ça a soulevé l'auditoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils le font, parce qu'ils l'ont à cœur. Mes frères et sœurs, être charnel, être spirituel, ça, c'est facile à comprendre. Enfin, c'est facile. Je peux vous faciliter la façon de le comprendre. Mais pourquoi je visite Madame Dupont? Je le visite parce que je veux le faire pour le Seigneur. Ah, moi, les visites, c'est pas mon truc. Hein. C'est le boulot de stagiaire. Hein. C'est comme ça que ça va se passer devant Dieu? Et un chrétien spirituel, il dit, mais qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? Si vous êtes spirituel, on le verra dimanche, ce sera la prédication de dimanche par rapport à la paresse. Si vous êtes spirituel, vous avez le souci vraiment de rechercher ce que Dieu veut pour vous. Et que quelqu'un ne vienne pas me dire, j'ai prié le Seigneur de tout mon cœur, je ne sais pas ce que je dois faire dans l'église. Si vous ne faites rien dans l'église, moi je vous plains. Mais je vous plains vraiment. Un chrétien, il a quelque chose à faire. Et si vous faites partie de ceux qui disent « Moi, ce n'est pas mon problème, les pasteurs, ils sont payés pour ça. » Quand vous allez passer devant Dieu, sur le tapis, il risque d'avoir pas grand-chose. Et ça serait dommage quand même. Ça serait dommage. Un chrétien, il a ce souci. Il a le besoin de porter du fruit. J'en ai parlé dimanche. Est-ce que c'est important pour vous de porter du fruit? Et tous mes frères et sœurs, nous devons, Parce que moi aussi, c'est valable pour moi. Bien sûr, je sais que Dieu m'appelle à prêcher. Mais comment je prêche? Pourquoi je prêche? Quelles sont les motivations de mon cœur? Est-ce que je prêche parce que ben, il faut prêcher, je suis payé pour ça, ben, je suis un fabricateur de sermons, voilà. Je fabrique des sermons. Ou est-ce que je prêche de tout mon cœur pour glorifier le Seigneur? Il n'y a que Dieu qui le voit. Mais en fait, c'est une affaire sérieuse, parce que quand on va en crescendo, ça va jusqu'à cette parole où Paul dit, mais bon, vous disputez, c'est grave, mais il ne faut pas oublier que les chrétiens, vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison, les chrétiens, pas le bâtiment. Nous sommes, nous, des pierres vivantes. Et on ne voit pas le fondement. Vous avez vu ce bâtiment 50 000 fois, mais vous ne savez pas les fondations de ce bâtiment. Vous allez sortir dans la rue tout à l'heure, vous allez voir des immeubles, des maisons, des petits bicoques. On ne voit jamais les fondations d'une maison. Pourtant, toutes les maisons que vous voyez, elles ont des fondations. Est-ce que c'est essentiel, les fondations sur une maison? Eh oui. Mais c'est pareil pour le chrétien. Le Seigneur, on ne le voit pas. Est-ce qu'on le voit, le Seigneur, Jésus? Non. Mais qu'est-ce qu'on voit de l'Église? Les chrétiens. Le monde ne voit pas le fondement du chrétien. Mais le monde y voit le chrétien. Est-ce que vous comprenez? Les gens, ils nous regardent. Le chrétien, si vous voulez, c'est le bâtiment au-dessus du sol. Paul l'explique bien dans sa deuxième lettre. Je vois que le temps passe quand il dit « Nous sommes le parfum de Christ ». 2 Corinthiens 2, 14 à 17. 2 Corinthiens 3. « C'est vous qui êtes notre lettre ». Il nous compare à une lettre. Et quand on nous voit, on nous lit. Qu'est-ce qu'on lit sur nous? Qu'est-ce que vous lisez sur moi? Quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », qu'est-ce que les gens voient de nous? Puisqu'ils ne peuvent pas voir les fondements, que le fondement c'est Jésus-Christ, mais ils peuvent voir le bâtiment. Le bâtiment c'est l'Église, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi c'est intéressant et important de chercher à ne pas être charnel. Parce que quand on est charnel, on a automatiquement un mauvais témoignage. Oui ou non? Et quand on est spirituel, incontournablement, on a un bon témoignage. Le monde, il ne voit pas Christ, puisqu'il est invisible, il est au ciel. Ou par son esprit, par le Saint-Esprit sur la terre, d'accord, mais il ne le voit pas. Mais le monde ne lit même pas la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Le monde, il ne voit pas Jésus, et le monde ne lit pas la Bible. La seule façon pour les gens du monde de voir Dieu, c'est de voir l'Église. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez la responsabilité que nous avons. C'est pour ça qu'il dit, mais attention, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Alors si vous faites partie de ceux qui disent, ben moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à cirer, je peux vous dire que vous n'avez pas compris grand-chose. Parce que je pense que le témoignage, c'est important. Oui ou non? Mais je l'entends souvent. Moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à cirer. Et encore, j'emploie un mot qui n'est pas tout le temps employé. Il est à la limite, celui-là. Mais mes frères et sœurs, si vous parlez comme ça, vous n'avez rien compris. Un chrétien, il a le souci de rendre un bon témoignage. Parce que la seule chose que le monde peut voir, c'est pour ça que les gens sont écœurés. Ce chrétien, non mais tu rigoles, ce chrétien, il est exactement comme les gens du monde. Il ment comme les païens. Moi j'ai appris, ah celui-là, mais il a trompé sa femme. Attends, est-ce que vous vous rendez compte combien les gens sont écœurés? Ah, vous allez me dire, non mais on n'est pas responsable. Alors, est-ce qu'on est responsable ou est-ce qu'on n'est pas responsable? Dites-moi. Est-ce qu'on est responsable ou pas? Alors, on va le lire. On va terminer avec ça. Alors, c'est vrai que je termine avec un avertissement. Parce que quand même, le Seigneur... Moi, je trouve que c'est important. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, vous avez lu la suite avec moi. Alors, on va partir sur un texte de Jésus dans Matthieu, chapitre 13. Alors ça pourrait soulever un débat, on en parlera peut-être avec les responsables jeudi soir. Matthieu chapitre 13, versets 40 à 43. C'est un de ces fameux textes où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 40. Or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, regardez bien, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est une question de témoignage. Il y a dans le royaume de Dieu, on voit, alors il y a des gens qui disent, oui, c'est pas possible, mais écoutez-moi bien, quand vous lisez la Bible, vous voyez très bien qu'à la fin des temps, en tous les cas, puisqu'il parle de la fin du monde, etc., les bons cohabiteront avec les méchants, les chrétiens bons avec les chrétiens charnels, on le voit, ça tient debout tout ça, ce que je dis. Mais une chose est certaine, c'est qu'il parle de ceux qui commettent des scandales. Alors, si vous lisez dans un dictionnaire la définition du scandale, moi je l'ai marqué dans ma Bible. Comportement incitant à se détourner de Dieu. Donc ça veut dire que, par ma façon de me comporter, à la place d'être un témoin, j'éloigne les gens de Dieu. C'est ça, scandaliser. Je peux, moi, m'éloigner de Dieu. Est-ce que si demain je veux être rétrograde, je peux être rétrograde? Est-ce que je peux demain choisir d'être rétrograde? Oui ou non? Oui, je peux. Si demain je veux être rétrograde, je suis rétrograde. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est moi qui m'éloigne de Dieu. Vous comprenez? C'est moi qui m'éloigne. C'est mon problème. Mais lorsque par mon comportement, j'éloigne quelqu'un de Dieu, c'est ça le scandale. On entend dans le monde, c'est scandaleux, tel ministre, passer des millions aux îles Caïmans, quel scandale chez les ministres. C'est pas ça le scandale. Le mot, c'est des mots qui ont été réutilisés autrement, mais le mot scandale signifie que j'ai un mauvais témoignage et que j'éloigne les gens de Dieu. Vous avez envie d'entendre, à la fin, quand vous passerez devant Dieu, mais tu sais que tu as scandalisé les gens par ton témoignage? Moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Et un chrétien, surtout qu'il y est ce temps. Laissez-moi vous dire qu'il y est, c'est pas la peine d'aller chercher. Où il est dit que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà. Et on est d'entrée dans ce temps. Il y a des gens qui disent, oh, monsieur Gault, vous êtes trop dur. Mais avant de dire ça, il faudrait mieux de lire la Bible pour voir si c'est vrai. Et si quelqu'un me prouve, et je ne vais pas lutter, que je suis dur, eh bien, je me corrigerai. Et je demanderai pardon. Ça peut arriver dans un domaine, oui ou non? Je le ferai, ne vous inquiétez pas, vous m'aiderez. Mais ce n'est pas de la dureté que de citer des avertissements du Seigneur sévères. Lorsqu'on est charnel, on met en danger l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur, il est catégorique. Vous le croyez que c'est Dieu qui a inspiré Paul quand Dieu dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ». Vous comprenez pourquoi le témoignage c'est important? Mais moi quand je vois des gens, je n'ai pas le temps. Mais je vous promets, je peux vous dire, ce n'est pas de l'orgueil, c'est comme mon père quand il voit une plante, il vous dit cette plante elle va crever, cette plante elle a une maladie, moi je ne vois rien, et lui il voit tourner la feuille, tu ne vois pas qu'il y a une cloque, clac clac, elle a telle maladie, pourtant il a 88 ans, et il voit 20 mètres une plante qui va mourir, parce qu'il a l'habitude. Mais moi je peux vous dire que je crois voir les chrétiens qui vont rétrograder. Quand les chrétiens commencent à dire « Oui, je ne comprends pas, et pourquoi Dieu ne me répond pas ?» Ce n'est pas bon ça. Je pense qu'ils voudraient me dire « Seigneur, montre-moi pourquoi tu ne m'as pas encore répondu. » Oui ou non? Mais quand on commence à en remettre en question la bonté de Dieu, « Moi je croyais que Dieu était bon, si Dieu est bon, il doit me bénir. » Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Que la bonté de Dieu, elle nous pousse à la repentance. Vous voyez? Et les gens, c'est ça la pensée de Dieu. Et si vous lisez, Seigneur, montre-moi quelle est ta pensée, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il vous communiquera sa pensée. Donc, mes frères et sœurs, le chrétien, il a ce souci, il veut honorer la parole. Si vous avez tendance à vous disputer, eh bien, apprenez à vous taire. Est-ce que Dieu peut vous donner de la maîtrise de soi? Il y a des gens, ils sont tout le temps, vous le savez, moi je fuis des gens. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils vont vous disputer. Et un chrétien spirituel, il évite les disputes de mots. Amen. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. En tous les cas, être charnel, ça détruit le témoignage. Et quand on détruit le témoignage, je peux vous dire que ça va quand même finir mal pour certains. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Elles n'ont pas été écrites pour critiquer les Corinthiens. Elles ont été écrites pour notre instruction. Seigneur, j'ai commencé à être spirituel. Je veux terminer spirituel. Amen. Mais lisez-le, je vous le prêche de telle manière que de par vous-même, vous pouvez découvrir quelle est la pensée de Dieu. C'est très simple en fin de compte, enfin, pour moi c'est un peu plus simple peut-être, mais je voudrais que vous compreniez que tout ça, dans le grec, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. C'est toute une pensée qui est développée. Et vous regarderez comment finissent les chrétiens charnels. Ça fait quand même peur. Alors il y a des avertissements. Moi je bénis Dieu pour ces avertissements. Oui ou non? Ça serait bien de voir sur certains posters que vous savez chrétiens, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous n'en verrez jamais. Si vous en trouvez un, je vous le paye 500 euros. Même 5000. Vous ne le trouverez pas. Mais il me semble que ça serait intelligent. Vous voyez, on montre toujours dans les classes d'école du dimanche Jésus, le bon berger, avec une petite brebis sur les épaules. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de montrer Jésus avec un petit agneau sur les épaules? Mais vous voyez, de l'autre côté du mur, on devrait montrer Ananias et Saphira allongés dans le temple. Et ceux qui mentent, ça... oui ou non? Vous allez me dire, non mais là tu exagères. Moi je ne suis pas sûr. Je crois qu'on a un Dieu qui nous porte, mais on a un Dieu qui a quand même donné des paroles sévères. Dieu est bon, la bonté elle nous pousse à la repentance. Mes frères et sœurs, quand on passera devant Dieu, il faut que ça se passe bien. Et il y a des gens qui auront été spirituels, construisons avec de l'or. Demain peut-être vous allez téléphoner à Mémé, Madame Carrière. Eh bien, ça va être enregistré dans le ciel. Je ne sais pas si c'est un ange, je ne sais pas s'il y a des ordinateurs spécialisés, je ne sais rien. Ça m'est égal, mais je sais que c'est vrai. Alors c'est sûr que ceux qui sont convertis depuis 30, 40 ans, 50 ans, vous vous rappelez tout ce que vous avez fait pour Dieu? Monsieur de Dieu, combien de visites vous avez fait en 50 ans? Il ne le sait pas. C'est pas grave. Dieu le sait. Mais je tiens à vous dire que Dieu regarde les intentions. Vous voyez, peut-être vous allez dire, ah mais le mardi, cette sœur, elle ne peut pas venir. Ben je vais aller la chercher. Je vais faire un crochet pour aller la chercher. C'est enregistré. Je ne le fais pas pour que M. Go pense que je sers super bien à l'église. Je le fais parce que je veux te servir de tout mon cœur. Et un vrai chrétien, écoutez-moi mes frères et sœurs, parce que si c'est vraiment, si on faisait ces choses, je peux vous dire qu'on ne serait pas loin d'un réveil. Pas loin d'un réveil. Je fais quelque chose, je joue du violon à l'église, je le fais pour le Seigneur, et pas pour montrer que je suis une bonne violoniste. C'est ça, Laure? Vous le faites pour ça? Non, je sais pourquoi vous le faites. Et que chacun dit, voilà, Seigneur, tu vois mon cœur, je veux le faire pour toi. Même si personne n'est au courant, et tant mieux que la main droite ne sache pas ce que fait la main gauche. Quelle belle image, que même, ça veut dire que même au sein de notre maison, si je fais quelque chose pour Dieu, eh bien, c'est peut-être bien que ma femme ne le sache pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on peut en parler dans le couple. Bon, je pars du principe que dans le couple, c'est peut-être pas la meilleure image parce qu'on est une seule chair. Mais il y a des choses, c'est pas la peine que tout le monde le sache. C'est vrai, Jésus dit, ah, ceux qui prient au coin des rues. Je termine avec cette pensée parce qu'elle complète bien la pensée. Jésus parle de ceux qui prient au coin des rues. Et il dit dans Matthieu 6, ils auront leur récompense. Ils ont leur récompense. Le gars, il prie au coin de la rue pendant une heure. Il prie pendant... Et vous repassez une heure après. Parce qu'avant, il priait au coin des rues. C'était pas le meilleur truc. Mais ils ont leur récompense. La récompense humaine. Un homme qui dit, ah ouais, tu rencontres celui-là, il prie. Mais la récompense des hommes, qu'est-ce qu'elle vaut? Ça sert à rien. Mais quand dans votre chambre, vous priez, peut-être qu'en rentrant tout à l'heure, vous dites, tiens, passez un quart d'heure à prier. Parce que au Burkina Faso, il y a des problèmes. Au Burundi, il y a des problèmes. Tiens, je veux prier pour le pasteur du Liban. Je veux prier pour le pasteur du Bangladesh. Je veux prier pour les couples de l'Église. Vous allez le faire. Vous allez prendre 5 minutes, 10 minutes. Si vous le faites de tout votre cœur, c'est enregistré. Vous apprenez quelque chose ou vous saviez que c'était vrai tout ça? Est-ce que vous savez que c'est vrai? Voilà. Et ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager. Que Dieu nous accorde la grâce de devenir spirituel et de le rester. Et de le rester. Vous êtes d'accord? On va se recueillir quelques instants. Vraiment, on demande au Seigneur cette faveur. C'est important, frères et sœurs. Il nous faut tous comparaître devant un jour, devant le Seigneur. Il faut que ce soit un moment de grâce. Alors, demandons-lui sa bonté. Demandons-lui. On se recueille. Dieu vous connaît.
Il savait que vous seriez là ce soir. Il m'a sans doute inspiré pour que plusieurs comprennent que vous êtes peut-être en train de devenir charnel et que vous êtes dans un mauvais drap, comme on dit. Mais cette prédication, elle va vous corriger, dire, tiens, hop, je vais changer de direction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le ferai, et je le ferai de tout mon cœur. C'est ça qu'on a vu ce soir. On ne joue pas avec ça. S'il n'y avait pas l'avertissement, je vous dirais, bon, c'est pas trop grave, mais il y a quand même l'avertissement. De ne pas détruire l'Église. De ne pas détruire le temple. Il faut aimer l'Église. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Il faut aimer le corps de Christ. Notre Dieu, quand nous voyons combien ces chrétiens de Corinthe sont redevenus charnels, nous comprenons pourquoi dans ta bonté tu nous as laissé ta parole. Merci pour cette épître. Apprends-nous, Seigneur, à avoir ta pensée dans toutes choses, afin que dans les semaines, les mois, si tu tardes, Seigneur, dans les années, que nous puissions terminer la course, tous, en ayant la joie sur la terre d'avoir eu ta pensée. C'est ce que nous voulons, Seigneur, avoir ta pensée. Tu vois, ceux qui sont dans l'Église sont redevenus des enfants à cause de leurs disputes, de leurs querelles. Délivre-les, Seigneur, délivre-les, afin que le jour où nous comparaîtrons devant toi, ce soit le moment le plus merveilleux de notre existence. Ce jour où nous verrons que nous avons construit avec des matériaux précieux. Que tout ce que nous faisons, que ce soit un petit verre d'eau, ou que ce soit de grandes choses, Seigneur, que tout ce que nous ferons, que ce soit un coup de fil, une visite, que ce soit même une salutation, que tout soit fait pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen.